Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Salut les marketeurs, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode du podcast Marketing Mania, je suis rejoint par Alexandre Ross du site Lifetime Conseil. Dans cet épisode, Alexandre m'explique comment il a construit son business grâce à des apparitions médiatiques, en commençant à l'âge de 18 ans, sans expérience et sans réputation. Vous allez également découvrir l'erreur que la plupart des entrepreneurs internet font quand ils essayent de se médiatiser. Et Alexandre m'expliquera exactement comment, dans mon cas, dans le cas de Marketing Mania, je peux éviter cette erreur si je veux me médiatiser. Et finalement, je parlerai avec Alexandre de comment il fait pour mener plusieurs projets en parallèle, comment il organise son équipe et comment il gère son temps pour n'effectuer que les tâches à plus haute valeur ajoutée. Alors, sans plus de transition, je vous présente Alexandre Ross. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Alexandre Ross, qui est le fondateur de Lifetime Conseil. C'est un des plus gros sites français sur le développement personnel, la séduction et le look. Mais si j'ai invité Alex aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est un maître dans le domaine de ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est-à-dire comment apparaître dans les médias et vous en servir pour booster votre chiffre d'affaires. Et sur ce point, les apparitions d'Alex sont assez impressionnantes. Sur son site, il liste des dizaines et des dizaines d'interviews dans tous les plus grands médias, dont M6, France 2, France 3, Direct 8, Énergie 12, Le Nouvel Observateur, Elle, GQ, la BBC ou encore les grosses têtes sur RTL. Alex, bienvenue dans le podcast Marketing Mania.
Merci de me recevoir.
Pour commencer, je voudrais revenir avec toi un petit peu en arrière et voir les origines un petit peu de ce qui t'a poussé à te lancer dans toute la question des médias. En faisant des recherches sur toi, j'ai découvert que tu avais lancé Lifetime Conseil en 2008, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Au départ, quel était ton business model?
En fait, j'ai lancé mon site en 2008 et je cherchais un moyen, parce que je n'étais pas vraiment fort au marketing sur Internet, je cherchais un moyen d'attirer l'attention, de faire parler de moi et d'avoir des visiteurs sur mon site pour les transformer en clients. Et je me suis aperçu que lorsque j'avais organisé mes premiers événements, les journalistes étaient assez sensibles à ça. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai tiré mon épingle du jeu à l'époque. J'ai réussi à rentrer en contact avec les journalistes, à leur envoyer mes informations, mes événements. Et ils venaient souvent couvrir mes ateliers de coaching, etc. Et c'est comme ça, véritablement, que j'ai commencé à acquérir mes premiers clients et ma première visibilité sur les médias grand public et notamment ensuite sur Internet, puisque je convertissais le plus possible ces nouveaux visiteurs en client. Donc c'est parce que c'était à défaut d'autre chose, parce qu'à l'époque j'étais pas vraiment bon en marketing et j'ai fait une école de communication qui s'appelle l'EFAP, qui est l'école française des attachés de presse. Je me suis entre guillemets servi de mes compétences et de ce que j'avais appris, et puis j'ai fait l'expérience du terrain, donc ce qui fonctionne avec les journalistes ou pas, je l'ai appris parce que ça n'a pas été que des succès. Et petit à petit, effectivement, j'ai réussi à passer une fois à la télé, deux fois, trois fois, pour cumuler, comme tu le disais, plus d'une centaine d'interviews dans cinq pays. Ça fait un peu plus de 35 millions de personnes en termes d'audience, quoi. Donc c'est pas mal et ça m'a beaucoup aidé.
Ça a pris à peu près combien de temps d'avoir ta première grosse interview à partir du moment où tu as lancé le site?
En fait, ça arrivait assez rapidement. C'est pratiquement arrivé en même temps parce que j'avais lancé un site auparavant avec des associés, puis j'avais décidé de continuer l'aventure tout seul de mon côté avec Lifetime Conseil. Et pratiquement au moment où j'ai lancé mon site, j'étais déjà en contact avec quelques journalistes et tout de suite après, ça s'est enchaîné. Et après mon premier passage média, j'étais tellement motivé, en fait, j'étais tellement content, je me suis dit, faut absolument continuer ça parce que ça donne une image, une crédibilité qu'on n'avait pas avant. En fait, lorsqu'on passe dans les médias, lorsqu'on l'a vu sur France 2, France 3, etc., les gens, ils nous regardent de façon totalement différente et on a l'impression de bénéficier d'une sorte d'aura, une aura médiatique, en fait, qui nous permet de gagner en confiance et en crédibilité dans son business. Donc ça, effectivement, c'est hyper intéressant.
Est-ce que tu te souviens de ta première grosse interview? Tu te souviens de comment tu te sentais avant de passer à l'antenne?
Ouais, je me souviens très bien. Moi, j'avais vraiment peur, j'étais assez flippé parce que je me suis dit, waouh, une grosse équipe de journalistes. La première fois, je crois que c'était la TSR, j'avais 18 ans, c'était Télé Suisse Romande pour un événement en Suisse d'ailleurs. Et je me suis dit, waouh, une caméra qui va se braquer contre moi, un gros micro, trois personnes qui vont regarder en même temps. J'avais peur de pas être suffisamment compétent en fait et de pas être suffisamment à l'aise. à l'aise pour parler de mon sujet, à l'aise dans les médias. Et effectivement, je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Et je me suis un petit peu entraîné, j'avais des réponses un peu préfaites, ce qui m'a permis de ne pas être trop mauvais. Et ensuite, c'est suite à l'expérience, à la répétition, 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 parce que comme je dis souvent, en fait, dans les médias, il faut pas être naturel, il faut être préparé. Et donc, en étant préparé, en ayant un peu d'expérience, ça aide de mieux en mieux. Donc, en fait, il faut jamais penser qu'on va arriver dans les médias, les premières interviews, parfait, hyper à l'aise. Ça n'arrive jamais, quoi. On a toujours ce stress.
C'est drôle parce que si tu vas regarder la plupart des blogueurs et des entrepreneurs qui sont sur Internet, y compris moi, on pense pas directement aux grands médias pour développer le public. On se dit que ça va être quelque chose de totalement inaccessible, tu vois, sans budget, sans expérience, etc. Toi, à l'âge de 18 ans, tu passais à la télé déjà, donc tu t'as commencé super tôt. Et ça, tu penses que c'est dû à ta formation ou c'est juste dû à ta personnalité où t'avais l'envie d'avoir un petit peu les projecteurs, etc.
En fait, c'était plus l'envie d'avoir les projecteurs et de me développer.
Ouais.
C'était un challenge personnel. Ma formation, certes, m'a apporté, tu veux, des bases sur la communication, mais il t'explique pas en détail comment rentrer en contact avec un journaliste, comment lui vendre ton événement et comment faire pour convertir ça en interview. Donc clairement, c'était par le goût du challenge et aussi parce que je savais que c'était un moyen après de devenir une sorte de leader, de faire partie des leaders de mon marché, en tout cas d'être reconnu comme tel. Et j'ai tout de suite vu un intérêt. Aujourd'hui, lorsque j'ai des passages dans les médias, je peux m'en servir encore mieux parce que je sais que derrière, il y aura un tunnel de conversion. Je sais que les spectateurs vont s'inscrire sur mon site et potentiellement devenir des clients. Donc aujourd'hui, c'est encore plus rentable qu'hier. Au début, donc, toi, par pur défi et ensuite par pure stratégie, tout
Ouais.
simplement.
C'est d'ailleurs quelque chose dont je voulais te parler. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment dans le marketing direct. Moi, j'aime avoir mon call to action et ensuite mesurer le pourcentage de conversion, etc. Et j'étais parlé à un certain nombre de gars qui ont eu pas mal de médiatisation. Et certains me disaient qu'ils avaient du mal à convertir leur exposition en termes de téléspectateurs en prospects. En revanche, ils disaient que l'avantage d'avoir été sur TF1 ou sur M6, c'est qu'ensuite tu pouvais coller le logo TF1 ou M6 sur ton site, et ça, c'était un boost énorme en termes de crédibilité, de preuves sociales, etc. Toi, comment est-ce que tu as approché cette question du funnel de conversion derrière sur les apparences médiatiques? Et est-ce que tu penses que le gros avantage, c'est effectivement les prospects directement, ou c'est de pouvoir coller le logo de la chaîne sur ton site?
Bah, c'est une excellente question. Je pense qu'en fait, c'est un tout. Donc effectivement, tu l'as dit, il y a tout ce qui est crédibilité, autorité par rapport au marché et même au potentiel partenariat, parce que il y a aussi tes partenaires qui vont voir que tu passes dans les médias, ils sont plus prompts à travailler avec toi. Le truc, c'est que effectivement, c'est une des critiques qu'on adresse à la presse, mais je suis pas hyper d'accord avec ça. Calculer le retour sur investissement, c'est possible si, par exemple, ça dépend de la nature du média. Si on a un lien sur un site internet, on peut quand même le calculer assez rapidement puisqu'on va avoir la source des visites. Et si par exemple on communique sur une page spéciale, une page de capture ou une page pour un produit spécifique, on peut voir par rapport à cette adresse combien de visites, etc. Après, forcément, pour ceux qui font du marketing direct, c'est jamais aussi précis. On va pas avoir des chiffres d'une précision incroyable parce que effectivement, si on a de la radio, si on a de la télé, là ça commence à être dilué. Dans le sens où on peut pas savoir qui va regarder exactement par rapport à quoi. Mais là encore, ce qui est important, c'est que ensuite on rentre dans le paysage et qu'on est vu comme étant, tiens, bah lui, Alex, il est spécialisé dans le coaching séduction pour hommes. On rentre tout de suite dans l'inconscient collectif. Et ça, c'est le plus important. Alors effectivement, lorsqu'on met en place des campagnes pour toucher des médias où on peut avoir un lien sur Internet, etc., là, c'est intéressant de mettre en place des tunnels et de calculer le retour sur investissement. Et pour le reste, moi, j'ai envie de dire, j'avais fait des tests sur des squeeze pages, donc des pages de capture identiques, la première version sans logo média et la deuxième version avec les médias justement vus sur TF1, etc. Et on avait constaté une augmentation du taux d'inscription de 5% avec la présence de ces logos. Donc c'est quand même extrêmement intéressant et pertinent d'utiliser ces vues dans les médias, dans les pages de vente, dans les pages de capture. Et toute la communication pour ensuite revendre ou convaincre un prospect de devenir client. Et c'est ça aussi une partie du plus important dans les médias. Faut pas négliger ces parties-là. Parce qu'on, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je me lance pas dans les relations presse parce qu'on peut pas calculer le retour sur investissement. Donc il y a ça. Et une dernière façon de calculer le retour sur investissement, c'est de calculer qu'est-ce que ça vaut en termes de coût publicitaire. Par exemple, j'ai une double page dans un magazine. C'était le cas. J'avais la double page dans le magazine Elle. À l'époque, la double page dans une édition tirée à plus de 500 000 exemplaires, c'était 64 000 euros. Donc quand on sait qu'on passe qu'on a une exposition de 500 000 exemplaires et sur une double page, ça vaut 64 000 euros. Bon, voilà, on a quand même une idée de la valeur de notre parution dans la presse. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, c'est une autre façon, en fait, de calculer le retour sur investissement par rapport au marketing direct. On peut voir un inscrit égale 2 euros et 1 euro égale 2 euros. Ce genre de choses-là, c'est une autre façon de calculer le retour et c'est une stratégie complémentaire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Et donc, pour rentrer très concrètement dans les détails, si tu passes sur une grande chaîne, donc tu vas avoir un segment, c'est quoi? C'est quelques minutes?
Bah, sur une grande chaîne, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques secondes, parfois jusqu'à 20 minutes. Et effectivement, il m'est arrivé d'avoir quelques reportages d'une vingtaine de minutes sur des chaînes comme sur la TNT, comme Energy 12, etc. Et effectivement, à chaque fois, il y a des pics de visite. Ouais. Donc ça, c'est pas négligeable, il faut pas l'oublier, ça. Il y a les gens qui seront intéressés de toute façon. L'effort ensuite de nous chercher sur internet pour voir, bah, on saura plus tout simplement.
Dans ce cas-là, ils affichent ton URL ou il faut qu'on aille chercher ton nom?
Eh bien, on peut voir ça avec les journalistes. Parfois, les journalistes intègrent l'adresse du site ou le nom de notre site dans les bandeaux, dans l'émission, qui est écrit nom, prénom, plus site où on peut aller, ou alors effectivement par rapport au nom et au prénom de la personne. C'est pour ça aussi que c'est intéressant pour ceux qui ont un site sur internet de travailler les mots-clés sur son nom et son prénom parce que les gens vont venir nous chercher ensuite pour savoir qui on est. Et donc, le mieux, c'est de tomber sur la bonne page, quoi.
J'ai vu aussi sur ton site un conseil assez drôle où tu conseillais de faire un t-shirt avec le nom de ton site.
Ouais, c'est aussi une possibilité. En fait, il y a plein de petites techniques comme ça qui sont intéressantes. Il y a aussi, peut-être, si on a écrit un livre, essayer de mettre le livre en évidence dans un plan. C'est pas mal aussi. Il y a plein de choses, de petites techniques comme ça qu'on peut adapter. Donc, effectivement, le t-shirt. Après, ça marche pas toujours. Il y a certaines émissions, il y a certaines productions qui foutront peut-être le t-shirt, mais sur certains plans, ils l'oublieront peut-être. Donc, c'est plein de choses qu'il faut tester comme ça et ne pas hésiter à innover et à mettre le plus possible en avant votre nom de société, le nom de site, et utiliser des mots-clés pour que les gens puissent rechercher ensuite sur Internet ce que vous aviez dit auparavant pour vous retrouver et encore plus vous trouver facilement, quoi.
Est-ce que tu penses que tous les business peuvent se prêter à ce type de médiatisation? Par exemple, je prends ton exemple, tu as commencé avec un site qui était Lifestyle Conseil, qui est sur un sujet, disons, très, très intéressant pour les médias, qui sont le coaching en séduction, etc. Si tu prends par contraste le site pour lequel on est en train de faire l'interview, c'est-à-dire Marketing Mania, c'est vraiment un business de niche, si tu veux, où je vais aller optimiser les conversions, je vais aller faire du remarketing pour des clients, etc. Est-ce que tu penses que pour moi, dans mon exemple, ça aurait du sens de poursuivre une stratégie média ou tout simplement c'est pas la stratégie qui est adaptée pour ce business-là en particulier?
Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui marche dans les médias, c'est tout ce qui est phénomène de société. Ensuite, pour tout ce qui est marketing et tout ce qui est marché de niche, ça va intéresser une presse de marché, de petit marché. Moi, je dis souvent que tous les business sont médiatisables, c'est surtout l'angle qui est important. Donc l'angle, c'est la manière avec laquelle on va parler d'une actualité qui concerne un business. Et en fait, l'erreur qui est commise par ceux qui travaillent sur Internet et qui souhaitent avoir des relations presse et avoir de la visibilité, c'est de ne pas rendre le net tangible. C'est-à-dire que pourquoi moi j'ai eu beaucoup de parutions dans les médias alors que je travaille sur Internet principalement, que je n'ai pas de bureau et que tout se passe sur Internet, c'est parce que j'ai su rendre tangible ça. J'ai créé des événements dans la réalité. Donc s'il fallait faire parler de ton site et d'avoir des parutions presse, il faudrait peut-être organiser un événement, une conférence comme ça, avec un angle d'approche assez vendeur pour pouvoir attirer les journalistes. Là, dans ce cas-là, ce serait possible. Et inviter effectivement des journalistes de niche qui parlent du business, qui parlent de l'entrepreneuriat. Et dans ce cas-là, effectivement, il pourrait y avoir une couverture médiatique. Donc, moi, je pense que pratiquement tous les business sont médiatisables. Ça dépend de l'événement, ça dépend du produit et de la manière dont on va en parler et de trouver un angle percutant pour donner aux journalistes envie de raconter cette histoire. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que les relations presse, en fait, c'est un système de séduction à deux niveaux. En gros, on a un entrepreneur, on a quelqu'un qui va vendre une information, enfin, en tout cas, qui va contacter un journaliste en lui disant « Hey, j'ai une super histoire qui pourrait vous intéresser ». Et là, ça c'est le premier niveau, donc convertir le journaliste et lui donner envie de parler de cette histoire, et le journaliste va dire à son audience, à son lectorat, « Hey, j'ai une super histoire à vous raconter, regardez ». Et là, c'est le deuxième niveau de séduction. Donc il faut jamais oublier qu'il y a une destination finale, et cette destination finale, c'est l'audience des médias. Et plus on va présenter ça sur cet angle-là, plus on va faire comprendre le journaliste que ça va intéresser son audience, et plus il sera prompt justement à parler de cette actualité dans les médias. Donc tant qu'on a ça en tête et tant qu'on l'oublie pas, on peut médiatiser un business en comprenant bien ce rapport de séduction, ce rapport de qui va finalement consommer cette information au final.
Donc toi concrètement, ce que tu avais fait à l'époque, c'est que tu louais des villas et tu amener des clients dans la villa pour faire des coachings organisés, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais.
Et ça, c'était du bonbon pour les journalistes.
Ah bah là, il y a tout. Hein. C'est... Là, c'est sûr que ça les intéressait beaucoup parce qu'il y avait le concept un peu nouveau de coaching, coaching séduction dans les villas, etc. Donc, il est possible de faire ça pour d'autres natures de business. En fait, moi, j'en suis persuadé. Plus on a des éléments comme ça un peu vendeurs de rêves et plus ça fonctionne, quoi.
Ok, donc je vais te pitcher une idée et tu me diras ce que tu en penses, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de ce phénomène de société. En ce qui me concerne, effectivement, le cœur de mon business aura du mal à passer sur TF1, c'est-à-dire optimiser les conversions TF1 et s'en foutre. En revanche, il y a tout un angle auquel j'ai pensé, qui est l'angle du nomade digital. L'idée que tu peux bosser sur Internet, sur ton ordinateur et aller vivre en Thaïlande ou aller voyager en Argentine, etc.
Bah, ça, effectivement, c'est un excellent angle d'approche. Et donc là, tu as parfaitement assimilé le conseil que je donnais tout à l'heure. C'est qu'effectivement, si on part sur un marché qui nous semble compliqué à médiatiser, il faut prendre du recul et voir quel phénomène de société est relié à ce marché. Et donc pour moi, celui du nomade digital, c'est tout à fait en cohérence en plus avec nos besoins et notre actualité sociétale, c'est-à-dire qu'on nous sommes voilà, actuellement dans une espèce de crise identitaire, de crise financière, de crise au carrefour de tout, où il y a une ubérisation de la vie, c'est-à-dire Uber, société qui concurrence les sociétés de taxi, Airbnb qui finalement concurrence les hôtels et tout ce qui est de l'hôtellerie sans posséder un seul appartement. Voilà, ce genre de choses-là. Et maintenant, on a tendance à trouver des nouveaux angles de vue sur la vie, des nouveaux métiers qui se créent. Et donc, celui du nomade digital, pour moi, justement, est d'une actualité totale. C'est temporel, c'est maintenant qu'il faut en parler. Donc, effectivement, pour moi, c'est la meilleure façon de rentrer dans les médias qui va attirer. Donc ça, oui, effectivement, c'est un bon angle d'approche pour moi.
Un autre angle que je t'ai vu souvent évoquer, c'est le concept du newsjacking.
Alors, le newsjacking, c'est un concept assez avancé en termes de relations presse. On n'a pas beaucoup en France, quoique de plus en plus. Il y a une marque qui fait ça, souvent et de façon talentueuse, c'est la marque Oasis, notamment sur Twitter. En fait, le newsjacking, c'est l'art de détourner un événement médiatique qui nous appartient pas, qui est pas de notre fait, en fait, et de s'immiscer dedans et de tirer la couverture médiatique vers nous. Donc, par exemple, je vais prendre un truc totalement au hasard, le premier qui me vient, c'était François Hollande, notre président français, qui avait, il y avait un grand scandale à l'époque où il avait une maîtresse, et il y avait plusieurs magazines qui faisaient état des escapades en scooter. Et il y avait Sixt, la société de location de voitures, qui avait publié justement un newsjack, qui était, la prochaine fois, louer une voiture vitre teintée sera mieux pour pas se faire griller, en quelque sorte, quoi. Donc ça, c'est un très bon newsjacking, c'est la société Sixt, à détourner l'actualité à son profit, d'une actualité qui n'est pas la sienne, le scandale François Hollande, Julie Gayet. Et je peux conseiller ceux qui nous écoutent actuellement à suivre un compte Twitter en France qui fait ça de façon professionnelle, c'est Oasis, qui détourne de nombreuses campagnes presse, campagnes médias, à leur profit, en jouant avec l'identité de leur jus de fruits, etc. C'est vraiment très bien fait, c'est très intelligent. Donc, voilà, c'est les exemples les plus actuels en France, parce qu'il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis qui fonctionnent sur le newsjack, mais ça parle à personne parce que ça se passe aux États-Unis, que c'est un marché différent. Mais Oasis, pour moi, c'est vraiment ceux qui ont tout compris au newsjacking. Dès qu'il y a un événement important en France, ils arrivent, ou ailleurs même, ils arrivent à tirer la couverture médiatique vers eux en publiant une blague, un détournement, une création graphique, etc., etc. Et ça, les entrepreneurs, ceux qui travaillent sur Internet, peuvent le faire aussi, parce que c'est le newsjacking, c'est quoi? C'est communiquer et réagir en temps réel. Et s'il y a bien un mot qu'il faut retenir, c'est temps réel. D'ailleurs, ça fait deux mots. Parce que c'est à l'heure de Twitter, à l'heure où l'actualité est H24, les agences de pub ne peuvent pas réagir aussi rapidement que ça. Les agences de pub, c'est on speech autour d'une marque, un client qui veut quelque chose, qui nous fait un brief et on réfléchit et on sort une solution, on sort un concept créatif au bout de quelques jours. Aujourd'hui, tout se passe très vite sur Internet, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook, donc il faut savoir être là rapidement. Parfois, il y a une actualité, réagir au bout de 24 heures, c'est trop tard. Et le concept du newsjacking, c'est ça, c'est réagir en temps réel et d'avoir un esprit créatif pour pouvoir tirer la couverture médiatique vers soi. Pour l'instant, c'est peu utilisé, on en est qu'au début, je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui seront très bons là-dedans et qui réussiront à être largement médiatisés grâce à ça, et plus en passant à travers le traditionnel communiqué de presse. Je pense que ça va être l'évolution logique des relations presse.
C'est intéressant parce que tu vois de plus en plus une évolution vers tous ces sites qui doivent publier en permanence, et plus en fait les sites de médias doivent publier de contenu,
plus ils sont désespérés de trouver des histoires, en fait. Et si tu peux nourrir le buzz, pour eux, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ils ont qu'une envie, c'est de trouver des articles qui vont faire le buzz et qui vont être partagés, etc. Et donc, si toi, tu leur fournis ce contenu-là, j'imagine qu'ils sautent dessus, t'as même pas besoin de les convaincre.
Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas oublier qu'on parle toujours des mêmes histoires, parce que depuis que les médias existent, depuis que les histoires existent, en fait, depuis la création de l'humanité, les histoires existent et on vend tous finalement les mêmes histoires, mais on les recycle dans un angle différent finalement. Parce que quand on ouvre un journal, c'est jamais, il y a toujours les, ce qu'on appelle les marronniers, c'est-à-dire les thématiques récurrentes, le Noël, les vacances
des francs-maçons.
Les quoi?
Les francs-maçons.
Voilà, dossier sur les secrets, la franc-maçonnerie, ce genre de choses-là. Donc c'est toujours, toujours, toujours la même chose, sauf qu'on tourne ça d'un angle différent.
Ouais.
Et c'est ça la puissance de ceux qui sont bons avec les médias, c'est ceux qui arrivent à twister les angles, à trouver des angles et des accroches différentes pour parler de la même chose. C'est tout l'intérêt des relations presse, c'est ça. Donc newsjacking, oui, c'est à mon avis le futur des relations presse.
Donc je voudrais, pour terminer sur toute cette partie sur la méditation, te poser une question qui est liée à une étude de cas réelle qui se passe en ce moment. Donc un de mes amis va être bientôt candidat sur une émission de télé-réalité orientée business qui va passer en prime time sur M6 à la rentrée. Donc lui, il a un business de consulting marketing qu'il aimerait bien promouvoir, etc. Sachant que sur l'émission, évidemment, il était candidat, ils l'ont pas laissé faire de call to action direct face à la caméra.
Oui, bien sûr.
Donc évidemment, l'émission passe du coup à la rentrée là. Il se demande comment est-ce qu'il peut faire pour capitaliser sur l'opportunité.
Oui, moi, ce que je ferais à sa place, c'est effectivement d'écrire plusieurs articles et de faire plusieurs vidéos sur YouTube avec son nom, son prénom, plus le nom de l'émission et le nom de la chaîne. Parce que automatiquement, quand les gens aiment bien une personnalité dans un show de télé-réalité, ils vont rechercher le nom ou le prénom plus le nom du show à côté. Et l'idéal, c'est de ressortir avant les résultats de la chaîne, enfin du site internet de la chaîne. Moi, je faisais ça quand je connaissais en avance, quelques jours avant, je connaissais le nom des reportages et de dans lesquels j'allais apparaître, parce qu'on connaît pas, quand on tourne 6 mois à l'avance ou 3 mois à l'avance, on connaît pas le nom exact du sujet dans lequel on va sortir. Mais une fois qu'on est au courant, moi, ce que je faisais, c'est que je créais un post sur WordPress et que je travaillais déjà, je publiais en amont et ensuite je mettais à jour le post avec la vidéo et plus de contenu, ce qui me permettait déjà de bien ranker sur ces requêtes là. Et donc c'est la façon la plus smart, c'est la plus économe et la plus simple pour justement tirer profit. Un autre truc qui pourrait être intéressant, c'est de réagir avec des hashtags en direct sur Twitter lorsque l'émission sera diffusée en direct, et d'utiliser les mêmes hashtags en disant, bah voilà, c'est moi Romain, je mets un prénom hasard. Tu t'appelles comment ton pote?
Il s'appelle Vin.
Vin, et bah c'est moi Vin qui passe en direct sur M6, retrouvez-moi en cliquant ici sur mon site, etc., etc. Je donne vraiment des noms au hasard. Je te mets Romain au hasard, mais voilà, c'est en gros le nom plus le prénom, hashtag, et le profiter pour rebondir sur le site.
C'est vrai que là, on parle toujours de la tendance du deuxième écran, etc., et que tout le monde est sur son téléphone en regardant la télé. J'avais pas même pensé du tout, d'ailleurs. En lui parlant, j'avais cherché des idées, mais effectivement, t'as raison, c'est un super angle. Donc je ferai tourner, je te dirai ce qu'il en fait.
Oui, je suis curieux de connaître les résultats. Ouais.
Donc pour terminer, je voudrais rapidement faire une troisième partie de cette interview, plus sur toi, la façon dont tu gères tes projets en tant qu'entrepreneur, en particulier parce qu'en ce moment, tu as 3 branches différentes dans ton business qui sont Lifetime Conseil, Devenir Médiatique et ton site sur la défense personnelle, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc comment est-ce que toi, tu partages ton temps entre ces 3 business différents? Et je te pose la question parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, où j'ai différents projets en ce moment et parfois j'ai un peu de mal à partager mes priorités.
Bah oui, je vais pas te cacher que c'est difficile. Ça demande une grande discipline et une organisation, et surtout ça demande une équipe. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de déléguer au maximum les tâches que j'ai pas envie de faire. Je pense que ça, le principal, c'est de vraiment faire ce qu'on a envie de faire le plus possible et là où notre valeur ajoutée est le plus demandée. Parce que voilà, moi, j'ai pas de valeur ajoutée dans le fait de faire un site WordPress, par exemple. Lorsque je lance un site de lancement ou que je dois créer une page de vente, le côté technique, etc., pour moi, c'est pas une valeur ajoutée. Et je préfère le déléguer à quelqu'un qui va le faire plus rapidement que moi et qui est plus calé en technique. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre sur pilote automatique Lifestyle Conseil avec une équipe de rédacteurs qui écrit. Moi, je n'écris plus. Et maintenant, je voudrais uniquement pour tous mes blogs où je vais écrire sur Devenir Médiatique et autres, même pour Lifestyle Conseil, pour la partie dev perso, j'aimerais uniquement publier des vidéos et ensuite faire appel à l'assistant pour qu'il monte la vidéo, un autre assistant pour qu'il fasse la transcription de la vidéo pour avoir une version de texte, et essayer de mettre au point des process, des procédures pour expliquer à chacun des intervenants que je contacte pour mes assistants comment faire pour publier une vidéo, comment faire pour monter une vidéo, comment faire pour publier un article sur WordPress, pour que finalement tous les petits trucs qui prennent du temps soient complètement effacés de ma routine et je puisse me focaliser uniquement sur ma valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de produits, la création de contenu unique, ce genre de choses-là. Donc après, là, ce qui aussi définit mon sens de la priorité, c'est ça va être ce qui va me rapporter ce que j'ai déjà c'est ce que je vais trouver le plus sympa et le plus fun à faire et ensuite ce qui va me rapporter le plus avec le moins d'efforts et le moins d'énergie possible parce qu'effectivement après c'est fatigant d'avoir plusieurs domaines et d'être partout à la fois donc c'est pour ça qu'il faut bien faire le bien mettre en ordre son sens des priorités.
Donc concrètement, tu as combien de personnes dans ton équipe en ce moment?
En ce moment je peux travailler presque avec une dizaine de personnes différentes. En fonction de si je suis sur un lancement, si je lance donc un nouveau produit, si je lance un nouveau site, si je crée du contenu ou si je suis en mode automatique et que je suis entre deux campagnes de lancement, dans ce cas-là, ça dépend un peu, mais ça peut aller jusqu'à 10 personnes, je pense.
Donc eux, c'est des employés ou des
Non,
freelances?
alors je n'ai pas d'employé, effectivement, tu fais bien de préciser avec ta question, c'est uniquement des freelances parce que je souhaite ne pas m'engager en fait, parce que tout simplement ça colle pas avec la vision du business en ligne que j'ai. On est censé être libre avec la nature de notre business, donc c'est pas pour s'enchaîner avec des employés et uniquement parce que je pense que chacun des assistants avec qui je travaille a une valeur ajoutée très précise et que parfois je peux avoir beaucoup besoin d'une valeur ajoutée pendant quelques temps et puis plus du tout besoin et puis re-besoin après 6 mois plus tard, donc ça vaut pas le coup d'avoir une recrue et de recruter pour ça un employé.
Et du coup, comment est-ce que toi tu recrutes ces freelances et comment est-ce que tu les sélectionnes?
Alors, ça va paraître étonnant, mais la plupart des assistants avec lesquels je travaille, je les ai recrutés via mes listes de prospects, en fait, en envoyant une annonce, en envoyant une annonce en disant, voilà, je cherche des gens qui peuvent m'aider à écrire des articles, qui peuvent m'aider à faire du montage vidéo ou à faire du référencement. Et je me rends compte que comme j'ai pas mal d'abonnés, 40 000 maintenant, et finalement, il y a des gens qui sont déjà éduqués à ce que je fais, qui ont le même état d'esprit que moi, en fait, et qui ont des compétences parce que avant d'être des lecteurs de mes sites, ce sont aussi des personnes comme tout le monde qui ont des compétences, qui ont un métier, une vie. Et donc certains sont techniciens, certains sont monteurs vidéo, certains sont rédacteurs. Et c'est comme ça que je recrute la plupart des gens. Et puis après, de fil en aiguille, lorsque je vais à des événements physiques et que je rencontre d'autres entrepreneurs dans mon marché ou dans des marchés similaires, mais dans le milieu de l'infoprenariat, bah je mets la main sur des compétences de personnes, voilà, de nouvelles compétences, des personnes que je connaissais pas encore. Donc on va dire que la grosse moitié, c'est recruté via mes propres listes et l'autre moitié, c'est via recommandations ou via ces événements où je rencontre d'autres entrepreneurs du web.
C'est intéressant parce que j'ai utilisé la même technique quand j'ai lancé mes recrutements là pour mon assistant marketing il y a quelques semaines. Et j'ai effectivement envoyé des emails sur mes listes en me disant, bon, ben, on va toujours l'envoyer là. J'y croyais pas trop. Et au final, c'est là que j'ai eu le plus grand nombre de candidats et surtout les meilleurs candidats. Les gars qui étaient vachement alignés avec ce que je voulais faire, qui connaissaient déjà le site, qui étaient des fans du podcast, qui avaient écouté les choses, etc.
Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est vrai que ça paraît pas logique au départ en se disant, mais attends, mais quel est le rapport avec ton électorat? Mais effectivement, comme tu dis, ils sont alignés avec ton projet, avec ce que tu fais, ils te respectent, sinon ce serait pas tes lecteurs. Et pour moi, c'est une très bonne façon de recruter ces assistants. Effectivement, c'est les plus fiables et les plus fidèles.
Donc tu disais que toi tu voulais juste ajouter la plus grosse valeur ajoutée dans le process. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es encore le seul à pouvoir faire à part apparaître sur les vidéos?
Franchement, j'ai tendance à penser que de moins en moins, je suis de moins en moins indispensable en fait. Je suis indispensable pour la stratégie et là où est-ce que je vais aller, hein, comment on va se développer, quels produits je vais sortir, etc. Mais à part pour les vidéos et justement cette vision de la boîte, j'ai tendance à penser que personne n'est irremplaçable. Et le but aussi pour moi, finalement, c'est d'automatiser le plus possible mes business pour peut-être éventuellement les revendre un jour où un acquéreur pourrait acheter un de mes sites sans justement que ça se délite par rapport à un changement de personne derrière. C'est un peu le but aussi, c'est de rendre ça suffisamment automatique et fait de procédure pour peut-être revendre certains de mes sites.
Est-ce que tu as entendu parler du bouquin Build to Sell?
Non, j'en ai pas entendu parler.
C'est un bouquin qui développe une idée très similaire. C'est moi où j'ai appris cette idée. C'est que si tu veux construire un business qui va se vendre, il doit être entièrement construit sur les process parce que, évidemment, si tu es indispensable au business, ça n'a pas d'intérêt pour quelqu'un de te racheter.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Donc,
Ah, j'ai pas lu le
donc
bouquin,
c'est
mais c'est
effectivement.
la même idée,
Ouais,
ouais.
c'est la même idée. Ouais. Voilà, pour terminer l'interview, je voudrais te poser trois questions rapides. Tu peux répondre à ces questions ou pas selon ce qui te vient à l'esprit, ou tu peux répondre, tu peux prendre autant de temps que tu veux pour y répondre. Première question, quel est un livre que tu recommandes souvent?
Moi, bah, je vais pas être très original, mais c'est vrai que ce livre-là est hyper important. Moi, j'aime bien La semaine de 4 heures de Tim Ferriss.
Ah,
voilà,
ouais.
Je pense que toutes les personnes que tu interviews, il y en a au moins un qui te le sort. Voilà, pour moi, c'est un livre qui est puissant, qui donne un bon état d'esprit. Et s'il y a un concept, un seul concept que moi j'ai gardé de ce livre-là, c'est la dose minimale effective, c'est-à-dire faire le minimum pour un maximum de résultats. C'est une sorte de loi de Pareto améliorée. Et en fait, il explique en gros que pour apprendre à parler anglais correctement et avoir des discussions fluides avec n'importe quelle personne à travers le monde en anglais, en gros, il te faudra 6 mois dans un pays étranger. Mais pour passer ces 80% de maîtrise de langue de l'anglais à 100%, il faudra toute une vie. Et c'est là où justement la dose minimale est intéressante, c'est-à-dire qu'il vaut mieux investir 6 mois de ta vie pour parler, pour maîtriser les 80%, plutôt que de passer toute ta vie à maîtriser les 100%. Donc moi, c'est des idées qui me séduisent. J'aime beaucoup ça. Et un autre livre que je pourrais recommander, parce que je suis en train de le lire et qu'il est aussi dans l'état d'esprit et qui marque beaucoup, il marque un peu comme au fer rouge, c'est Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Je crois que c'est Rich Dad Poor Dad en anglais. Et ça aussi, c'est assez intéressant pour l'éducation financière et notre vision, notre rapport par rapport à l'argent. C'est vrai que, en fait, ce sont des, c'est pareil, c'est un état d'esprit, des idées que j'ai eues avant de lire le livre en disant tiens, j'ai une façon différente de voir les choses et peut-être que j'ai besoin de renforcer cet état d'esprit en lisant des bouquins de référence là-dessus. Et là, je me suis dit tiens, c'est vraiment compatible avec ce que je suis en train de penser. Et plus j'ai commencé à mieux gagner ma vie et plus je me rapprochais de cette méthode de pensée-là. Donc voilà, de pas travailler, de pas courir pour l'argent, de faire travailler l'argent pour soi et ses projets, de pas être ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire un peu la petite souris dans sa cage, dans sa petite trou qui court après l'argent au final et qui est en fait emprisonné hein, dans sa propre réflexion et qui arrive au bout de sa vie à la retraite et dit bah qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, j'ai couru après l'argent et puis c'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, vraiment un livre à recommander aussi, Père riche père pauvre, Robert Kiyosaki.
Donc on mettra les liens comme toujours dans l'article pour que les gens puissent aller directement retrouver les bouquins. Deuxième question, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Arrête de penser que t'as toujours raison. Forme-toi. Pose-toi plus de questions. Rencontre plus de gens. Et arrête d'être sûr de toi. Voilà.
Ok. Et dernière question pour terminer cette section. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit et qui t'inspire dans ta vie quotidienne?
J'ai pas vraiment de proverbe, je crois, j'ai pas vraiment de citation prête à penser, mais s'il y a quelque chose qui m'obsède, en tout cas, c'est vrai qu'il est assez présent dans mon état d'esprit, c'est de vraiment privilégier la qualité du temps et de comprendre que le temps, c'est notre seul unique, denrée rare qu'elle est limitée sur Terre et que finalement, on parle beaucoup d'argent, c'est au cœur de notre business et c'est tant mieux, mais l'argent, pour en gagner, on peut en perdre, alors que l'argent, le temps, on le dépense tous les jours. Soit on le dépense, soit on l'investit, en tout cas, on le perd de plus en plus tous les jours. Et c'est ce qu'il faut privilégier, et si c'est vraiment une idée qu'il faudrait garder à l'esprit par rapport à l'entrepreneuriat et entreprendre sur Internet, c'est de pas trop se perdre dans le travail, dans les projets, etc., et de kiffer le moment présent, c'est assez important. Donc voilà, ça serait ça la phrase, je sais pas de qui elle est, mais kiffer le moment présent. Ce sera largement suffisant.
Cool. Pour rebondir là-dessus, je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir été avec moi. Où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail?
Déjà, merci à toi, c'est un plaisir. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur moi et recevoir des conseils sur la médiatisation et le business, il y a le site devenezmediatique.com et le site alexandreross.com. Je pense que là, il y a déjà tout ce qu'il faut pour en savoir plus.
Super, merci Alexandre.
Merci à toi et à très vite.
Si vous avez aimé cette interview, rendez-vous sur marketingmania.fr pour découvrir plus de conseils pour convertir vos visiteurs en acheteurs. Et en particulier, vous pourrez accéder gratuitement à un guide complet sur la technique la plus efficace en ce moment, celle que nous utilisons avec tous nos clients, le remarketing. Et quant à moi, je vous retrouverai dans le prochain épisode avec de nouvelles idées pour booster vos conversions.